Bienvenue à Identité Doula. Je suis Annick Bourbonnais. Aujourd'hui, je reçois une accompagnante des passages, doula périnatale et professeure de yoga. De façon personnalisée, elle assiste les moments importants de la vie suivant les besoins uniques des femmes et des couples. Voici la magique Émilie Bergeron. Bonjour Émilie Bergeron.
Bonjour Annick Bourbonnais.
Je suis contente qu'on ait un moment pour échanger ensemble, qu'on puisse découvrir ta belle identité de doula.
Merci, moi aussi je suis contente. C'est un honneur.
J'aimerais que tu te présentes pour commencer.
Me présenter. C'est dur, hein, parce qu'on est des choses, puis ça change. Bon, ça bouge, ça se transforme. Je suis maman de deux garçons. J'ai quand même fait quelques voyages. Je suis doula. J'ai assisté aux premières naissances en 2004, donc il y a 20 ans. Je suis professeure de yoga. J'accompagne les passages féminins aussi. Puis je suis en éternelle quête de transformation, de pacification, de résilience dans ma propre vie comme humaine.
Puis, t'es dans quelle région, ma chère?
Suis au lac Saint-Jean. Ça va peut-être t'entendre un petit peu. Je vais faire attention, mais je vais sûrement avoir mon petit côté agricole qui va ressortir de temps en temps dans certaines réponses.
Ben, je trouve que c'est ce qui fait ton charme.
Merci.
Dis-moi, comment t'en es venue à devenir doula?
Je vais essayer de faire la version courte parce que ça fait plusieurs fois que Simon m'entend le raconter. Il dit, ah, il faudrait que tu trouves une version courte. Fait que je vais essayer de la créer avec vous aujourd'hui.
Simon, c'est ton amoureux, ça.
Oui, Simon, c'est mon amoureux. Moi, je m'amuse souvent à dire que c'est les naissances qui m'ont choisi. Lors d'un séjour en 2004 au Mexique, la sœur de la maman où j'habitais m'a demandé si j'avais déjà accès à des naissances. Comme je viens de le dire, je viens de la campagne. Donc, j'étais bien fière de répondre que j'avais assisté à des naissances de chiens, de chats, de chevaux, de veaux. Tu sais, j'étais vraiment, ben oui, tu sais. Là, la femme me regarde avec un drôle de regard. Elle dit, non, non, nosotros, humanos. Là, c'est moi qui lui resserre son regard parce que dans ma tête, ça va très vite. J'ai 24 ans. Et clairement que si je pourrais avoir des enfants, ça va pas se passer bientôt. Ça va être plus tardif. Parce que j'avais vraiment le goût d'apprendre à me connaître en rencontrant des gens dans d'autres cultures. Et là, j'y fais son regard qu'elle vient de me faire. Puis ça va vite dans ma tête en me disant, mais ça se peut pas voir des naissances d'humains. Si je suis maman, je vais être traversée par la naissance de mes enfants, mais je vais pas assister à des naissances. Ça se peut pas. T'sais, je comprenais pas qu'est-ce qu'elle me demandait vraiment. Mais je me disais qu'avec mon espagnol de brousse, j'avais probablement perdu certaines subtilités de la conversation. Alors, à la fin de la soirée, la femme, elle me demande de mettre mon manteau puis de la suivre. J'ai 24 ans, je suis vraiment contente d'aller avec elle. Elle me dit, ah, on va peut-être aller prendre un dernier verre, elle va montrer son quartier, on va aller voir un spectacle, je sais pas, moi. Ben non, sans m'avertir, elle m'a emmenée travailler avec elle dans un hôpital de naissance. Elle me prête des vêtements. Là, c'est vraiment particulier pour moi parce que je sens pas nécessairement que j'ai tant le droit d'être là, mais tout le monde me fait une belle place, tout le monde me fait un sourire. Il m'emmène dans une chambre, il m'assoit sur une chaise, puis c'était la première fois dans l'histoire de l'hôpital qu'il y avait une naissance de triplé. Il m'en met un dans les bras avec une petite traîne de colostrum. Puis là, j'ai le petit triplé dans les bras, je suis complètement attendrie. Je prends le temps de lever mes yeux, puis je regarde la femme qui vient de faire naître les bébés, qui en a un au sein, puis je vois que sa voisine de lit est en train d'avoir un autre petit bébé. Elle n'a pas encore accouché, puis elle a un autre petit bébé qui est au sein. Et là, moi, là, à ce moment-là, je me suis sentie comme un cœur sur deux pattes. Je sentais les choses avec mon cœur, si ça résonnait, si ça résonnait pas, si ça avait du sens, si je trouvais ça beau. Je laissais comme l'espace de mon cœur me nourrir ou dicter un peu mon feeling, ma perception des choses parce que j'avais aucune idée. J'avais aucune idée, mais j'ai juste trouvé ça beau que les mères s'entraident. Puis là, à un moment donné, Ils me reprennent le petit bébé, puis ils me disent, viens, il y a une naissance. Puis là, je me sens un peu comme un cheval que tu tires, puis qui décide de bloquer. Puis je l'explique, ben voyons donc, je vais pas aller à une naissance sans avoir la permission de la femme, tu sais, du couple, de la mère. C'est pas un spectacle dans ma tête, ben voyons donc, c'est pas un spectacle du Cirque du Soleil, c'est une mise au monde, c'est intime, tu sais, c'est, voyons donc, n'importe qui peut pas voir ça. Fait que là, il me trouve drôle, il me trouve vraiment intense dans j'aimerais mieux que vous demandiez au couple, à la femme, si elle accepte ma présence. Ils sont venus me chercher, la femme était d'accord. Puis là, je suis rentrée dans la chambre, ça ressemblait un peu à une chambre dans les téléromans des années 60, là, un peu aseptisée avec la petite lumière qui a l'air à flasher, là. J'essaie de prendre une place qui ne va pas déranger personne. Puis je me mets en retrait. Puis j'observe, puis dans ma tête, ce petit cœur-là sur deux pattes que j'ai senti qui est arrivé quand ils m'ont mis un triplet dans les bras, j'ai juste essayé d'émaner un peu de confiance puis d'amour pour cette femme-là. En observant, puis là, j'ai eu comme une information, j'étais pas bien parce que le papa était pas là. Puis à un moment donné, je suis devenue pas bien aussi parce que le médecin, il avait l'air de dire, hey, arrête de crier, puis pousse, là, tu sais, un peu condescendant. Fait que moi, tout ce que comme j'ai dit tantôt, c'était juste une perception dans mon cœur. Ça faisait pas. Puis là, j'aimais pas ça. Et à un moment donné, le petit bébé a commencé à descendre. Il a commencé à sortir. Et là, j'ai saisi dans ma moelle épinière, dans mon cœur, la puissance et la fragilité de la vie qui vient. Puis je me suis mise à pleurer, à rire. Avoir la chair de poule dans les cheveux, ses bras tremblaient. J'étais traversée par quelque chose de tellement grand, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais vraiment, vraiment dans. Si on parle souvent de traumatisme, c'est quelque chose qui peut être référé à quelque chose d'épeurant, de négatif. Mais là, moi, je ne peux pas dire autre chose c'est un traumatisme positif que j'ai vécu. J'ai ri, j'ai pleuré. Les deux semaines suivantes, j'ai vraiment été percutée de cette expérience-là. Puis après, ils sont partis avec le petit bébé, ils ont laissé la femme là. Puis là, encore là, mon cœur, il me disait, non, j'aime pas ça. J'ai suivi le petit bébé. Je suis revenue voir la maman. Je lui ai dit qu'elle avait une belle fille en santé. Puis j'ai essayé d'échanger avec elle. Elle avait encore les pieds dans les étriers. Puis je me disais, mon Dieu, qu'elle doit être inconfortable, qu'elle doit avoir de la misère avec la circulation dans ses jambes. Fait que je suis allée chercher une civière. J'ai fait un peu comme on voyait dans les téléromans. J'ai tiré ce drap pour la mettre sur la civière, pour la mettre à l'horizontale. Puis je lui ai demandé si je pouvais toucher ses jambes. Je me suis mis les deux mains dans le sang, j'ai nettoyé ses jambes. J'ai pris sa main, j'ai posé des questions, j'ai demandé si elle avait besoin de quelque chose, boire de l'eau. J'ai essayé de donner de la dignité, de donner de l'importance, d'être là, juste présente autour d'elle, puis à essayer de sentir qu'est-ce que je pouvais être, porter, faire pour qu'elle se sente une superwoman de ce qu'elle venait d'accomplir. Pour moi, c'était incroyable. C'est comme ça que je suis devenue. Pas devenue doula à ce moment-là, mais les naissances sont entrées dans ma vie. Et ensuite de ça, je suis retournée une autre nuit où là, il y a eu 21 naissances. Les femmes n'avaient même pas le temps de se rendre dans les chambres de naissance, c'était dans le corridor. Puis là, les femmes, je me rappelle, il y en a une, elle m'a arrêtée, puis elle m'a pris la main, puis elle m'a dit non, pas d'eau, mais d'où elle est, ça me fait mal, je pourrais pas. Moi, là, je l'ai regardée. Dans mon cœur, là. Je l'ai regardé puis je lui ai dit, moi, je le sais, tu peux faire naître ton petit bébé. Et là, elle m'a regardé. Puis j'ai l'impression que dans sa tête, elle s'est dit, mon Dieu, elle a tellement confiance en moi, elle doit le savoir que je suis capable. Elle a refermé ses yeux et est partie. Elle est allée travailler en équipe avec son petit bébé, puis le petit bébé est arrivé. Fait que j'avais comme vu ce moment-là, comme si j'avais injecté un peu de confiance en elle, dans sa moelle épinière. Tu sais, puis après ça, j'ai lavé des petits bébés. Puis là, le premier bébé qu'ils m'ont mis dans les bras, mon Dieu, que c'est fragile. Puis en même temps, c'est tellement solide. Tu sais, c'est comme, j'ai pensé à ma grand-mère. parce que j'avais vu ma grand-mère laver des je parlais d'un petit bébé, j'avais vu ma grand-mère laver des petits bébés. Je me suis connectée à son essence, puis j'ai fait ça comme si j'avais fait ça toute ma vie, avec le petit savon, le petit jet d'eau, puis l'emmaillotage, puis les femmes, les naissances, la césarienne mexicaine, ou le ventre qui était ouvert à l'horizontale, puis j'avais l'impression que le bébé sortait en dansant. Tu sais, c'était vraiment... J'ai été percutée, j'ai été impressionnée, j'ai été touchée, j'ai été transformée par ces nuits-là. J'étais allée 3 nuits en tout, donc 20, 22, 22 naissances au total. C'était incroyable. C'était vraiment puissant comme transformation. Il y a 20 ans,
Il y a
aujourd'hui.
20 ans, puis là, c'est malgré toi, tu entres en contact avec ce milieu-là, avec ce qui se passe en toi, ce qui se passe à l'extérieur de toi, cette harmonisation-là dans tes perceptions. C'est quoi pour toi, une doula?
À ce moment-là, que je chantais, c'était vraiment une présence à l'hôpital, parce que je pouvais juste être là, dans les yeux. Tu sais, j'avais même pas tant de vocabulaire que ça en espagnol, ça faisait pas si longtemps que j'étais là. Je l'ai décortiqué comme ça, comme une personne qui émane une grande confiance dans ce que les femmes étaient en train de vivre. Puis après, quand j'ai vu ma première naissance au Québec, là, ça a été complètement différent parce que j'avais un lien avec la femme qui était en train de faire naître son petit bébé. Le savoir-être est quelque chose, j'ai pas le choix de le nommer avec une doula. Aujourd'hui, bon, on décortique, on se fait former, on accompagne de toutes sortes de manières. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est là comme accompagnante dans les passages. Qui est là selon le besoin des personnes qui sont devant elle et non pas amener tout le monde à être comme la doula veut ou comme le personnel, ou... mais c'est vraiment d'accompagner dans l'unicité des personnes qui sont devant elle, qui sont autour d'elle, puis c'est d'émaner une grande confiance, puis c'est vraiment beaucoup d'être dans son savoir-être. Moi, j'ai la posture de savoir-être, ne pas être contre, mais être pour. Comment les gens peuvent exprimer, les couples, les femmes, leur pouvoir. C'est un peu comme ça que je le traduis avec au fil des expériences.
Plus c'est un rôle que tu travailles ou incarnes depuis 20 ans maintenant. C'est quoi qui te rend le plus heureuse après toutes ces années dans ton rôle de doula?
Bonne question. Mais de sentir que les gens avec qui on est en contact, ça fait une petite différence pour eux, une grande différence pour certains. Mais de pouvoir contaminer un peu au niveau du cœur, c'est un peu ça la fierté d'être une doula. C'est donner le pouvoir aux personnes qui sont devant de faire rayonner leur propre cœur, de savoir qu'est-ce qu'elles ont envie de vivre, comment elles ont envie de le vivre, comment elles ont envie de le manifester. Moi, j'ai beaucoup envie d'être dans la douceur. Je suis pas une personne qui va être en avant avec les grosses affiches puis qui va être contre, mais je pense qu'on peut faire une révolution d'une manière douce. Puis je pense que ça passe beaucoup mieux. Même si des fois je pense qu'il faut qu'on shake, mais moi je serai pas cette personne-là qui va aller shaker et être contre, mais je vais faire ça par l'intérieur, par le cœur, avec douceur. Puis ça passe. T'sais, je le vois que ça peut transformer aussi. Les gens ils sont moins menacés, puis ils s'en rendent pas compte que ça les affecte finalement. Il y a un petit ricochet sur le médecin. T'sais, dernièrement, j'ai entendu un couple que j'ai accompagné qui ont expliqué à leur médecin qu'il y avait une douleur. Puis oh, c'est qui? Ah, oh, on l'aime, mais elle n'est pas d'une secte. Puis le même médecin, un peu plus tard, dit à un autre couple, moi, à ma retraite, je vais être doula aussi. Wow, ça pour moi, c'est ma paye. T'sais. Ça veut dire que ça passe, ça veut dire que j'accompagne de la bonne manière. C'est mon petit rayonnement, c'est ma petite victoire à moi.
À l'autre bout du spectre, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ton rôle?
Les gardes, c'est dur. J'aimerais beaucoup travailler en dyade parce que moi, j'ai quand même des soucis avec mon sommeil depuis quelques années. Puis le fait qu'on ait des semaines de garde, c'est sûr que, ben là, moi, je n'ai pas entendu mon téléphone, je vais me réveiller, je vais vérifier, j'ai eu un appel. Ça crée un petit peu de sécrétion de cortisol. Fait que les gardes, c'est tough. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant, des doulas. Fait que, tu sais, c'est ça de faire sa place, de faire son chemin. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va aimer écraser ou être dans l'ego ou faire sentir au monde que je suis la meilleure. Moi, ça me gêne pas de faire des appels découvertes puis de référer à une autre personne qui pense que c'est vraiment un bon match. Puis je pense que si on avait tout un peu cette humilité-là, on aurait toute la job, puis on serait toutes reconnues, puis on aurait tous des bons matchs de couple. On serait dans notre justesse. On serait pas dans prendre la place de quelqu'un ou pas prendre notre place non plus, mais on serait dans. Ça, je pense que ça serait important qu'on puisse avoir ça, développer ça ensemble.
Oui, absolument. Quels sont les. Bon, tu nous en as parlé un petit peu peut-être, là, mais au fil des années, quels ont été des événements marquants qui t'ont construite, façonnée ou influencée?
Ben, comme j'ai dit au départ, c'est les naissances qui sont venues à moi en premier. Ensuite de ça, là, au Mexique, c'était une chose parce que j'étais capable d'aller avec sang-froid. Il n'y avait pas le lien émotionnel avec les femmes. Mais après, quand je suis revenue, après mes 2 années en Bolivie, il y a une amie qui m'a demandé d'être présente à la naissance de son petit bébé. Et sa mère était là. Et là, ça a été difficile pour moi parce que les gens qu'on aime, on n'a pas envie qu'elle ait mal. Puis là, je ne sais pas moi comment ma posture était. Là, j'avais moins l'impression que j'étais capable d'injecter de la confiance en mon amie, là, tu sais, dans le sens que j'avais vraiment confiance en elle, mais je trouvais la situation très inconfortable. Je l'aurais pris, moi, sa douleur. Je l'aurais vécu. Moi, j'y aurais fait les contractions, il me semble que j'aurais évité ça à ma chum. T'sais. Quand j'ai levé mes yeux puis j'ai vu sa maman, là, ce que j'ai senti, c'est que sa maman, elle non plus, elle n'avait pas de plaisir à voir sa fille dans les contractions. Puis j'ai senti aussi que la maman était en train de revivre des naissances de ses bébés à elle. Fait qu'il y avait comme quelque chose qui était contre-productif dans la chambre. Je suis allée voir la maman du haut de mes 29 ans. Je lui ai dit, hey, là, je pense qu'on n'est pas en train d'aider ta fille. Là, la maman a dit, effectivement, c'est dur pour moi. Je l'ai. Elle a eu des émotions, je l'ai pris dans mes bras, puis j'ai dit, écoute, je pense que le petit bébé, il n'est pas là tout de suite. Notre job, je pense que c'est changer le pH de la chambre en ce moment pour dire oui à l'expérience, pour dire oui à ce petit bébé-là, comment il est en train de descendre, pour dire oui à ta fille, à toutes les contractions. Il faut qu'on dise oui. Il faut qu'on soit dans une ouverture. Ça m'a vraiment donné un bagage important, cette expérience-là au Québec. Puis là, je me suis dit, moi, j'ai 22 naissances dans le cas-là. Comment ils font les conjoints ou les conjointes autour de leur amoureuse qui a mal, qui n'ont pas la préparation que j'ai? Là, je me suis questionnée beaucoup par rapport à ça. Puis mon amie, on avait comme fait un petit protocole de « Ah, quand tu seras plus capable, mon amie, elle aurait aimé ça accoucher dans la forêt. » Et que j'avais acheté à l'époque une petite bouteille d'huile essentielle de pruche. C'était pas la mode comme aujourd'hui. Hein. On avait dit « Ah, quand ça va être trop dur, on va mettre de la pruche sur ton oreiller, puis ça va te sentir en forêt, hein, tu vas fermer tes yeux, puis... » Qu'on a fait ça. Après ça, la maman est rentrée, on s'est fait un sourire, puis on était vraiment comme dans la respiration, dans la douceur, dans le calme. 45 minutes après, le petit bébé est arrivé. Ça m'a donné une grande expérience. J'ai eu l'impression à ce moment-là que les femmes qui étaient en train de faire naître leur petit bébé, ils entendaient les gens qui étaient autour, même si on ne parlait pas. Ça m'a donné ce bagage-là. Puis ensuite de ça, j'ai fait ma formation pour devenir doula en 2010-2011. À l'académie, non, au CEMA. Puis là, toute la pratique que j'avais vue, j'ai eu la théorie. Fait que ça s'est vraiment bien déposé. Puis moi, en 2012, j'ai été enceinte de mon premier garçon. Et là, je pensais qu'avec tout ça, moi, je pouvais comme faire un menu à la carte, un peu de ça, une moitié de ça, telle assiette, que je pouvais choisir. Mais avoir mon premier garçon, ça a été une très grande expérience pour moi parce que ça s'est aucunement passé comme je voulais. J'avais 25 naissances d'assistées à l'époque. J'avais fait ma formation de doula. J'avais une doula. Fait que moi, j'étais blindée, j'étais immunisée. Je pouvais juste accoucher comme je voulais. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris parce que hey, j'ai été en choc après. J'ai été tellement en choc. Puis sais, je remercie cette naissance-là qui m'a pris 30 heures, que je suis arrivée à l'hôpital à 5 cm parce que je voulais faire un bout de travail tout seul chez moi. Je n'avais pas peur de la douleur, j'avais une préparation, tout ça, mais et ça, c'est pas passé comme j'ai voulu. Et là, moi, j'avais ça à cœur de préparer les couples pour qu'ils fassent des soins de naissance et non pas des plans, pour pas qu'ils soient déçus. Parce que moi, ça m'avait vraiment fait mal d'avoir pas eu la naissance que j'aurais souhaité avoir. Mais finalement, je veux dire, c'était le plus beau cadeau parce que j'ai cette subtilité-là maintenant dans mon accompagnement de il y a ce qui est souhaité, il y a ce qu'on souhaite, il y a ce qu'on aime, il y a ce qu'on aimerait, il y a ce qui se passe pour vrai. Et on a le pouvoir sur comment on prend les choses. Ça, il n'y a personne qui peut nous l'enlever jamais. Et ça a beaucoup teinté ma pratique de doula.
Est-ce que tu as eu des hésitations ou des doutes à certains moments?
Pendant 20 ans. Pendant 20 ans, j'ai douté. J'ai eu peur, je pensais pas que c'était pour moi. Moi, je travaillais du monde de la gestion de projet, je venais du monde de la coopération internationale, je venais du monde du loisir, du récréo. Fait que je disais non, puis je savais pas quoi faire avec ça, puis oups, les naissances revenaient. J'avais une expérience. C'est rare au Québec quand même qu'on va à des naissances sans être doula, sans avoir de formation, sans. Puis ça revenait. Puis je me disais, mais je sais pas quoi faire avec ça. Puis c'est donc bien drôle que ça revienne. Puis je continuais mon travail, puis oups, il y a une autre naissance qui revenait. Quand j'étais en Bolivie aussi, je travaillais la première fois dans un orphelinat où il y a eu des jeunes filles mères. Puis c'était moi qui étais là, on m'appelait pour venir parler de la mise au monde, tu sais, avec mon mini bagage. Après ça, on m'appelait pour être là en postnatal, pour faire le lien d'attachement avec le petit bébé. Fait que, je veux dire, mais je disais non parce que je savais pas quoi faire. Puis quand j'ai eu ma doula, moi, mon premier bébé, il y en avait une à ce moment-là au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis à un moment donné, j'ai osé lui dire, écoute, comment ça fonctionne pour toi? Est-ce que tu arrives à en vivre? Je peux te poser toutes ces questions-là. Comment ça fonctionne? Nanana. Puis elle dit, écoute, je fais tant par année. Et moi, les deuxièmes rondissent. C'est comme, ben, on ne peut pas en vivre finalement, puis on ne peut pas être deux. Fait que j'ai fait quelques backups pour elle, mais là, j'ai compris aussi que les femmes qui choisissent leur doula, ils vont s'arranger pour que la doula soit là. Parce que j'ai fait des fins de semaine de garde, mais le petit bébé, il arrivait avant, il arrivait après. C'est fou, ça, cette magie-là. Hein. J'ai fait à peu près
Vraiment.
une dizaine de gardes pour cette doula-là, puis j'ai jamais été à aucune des naissances. Fait
C'est
que là,
fou.
j'ai compris aussi la magie des petits bébés, la magie des femmes qui ont choisi la femme en qui ils ont confiance. Donc, j'ai attendu 20 ans. Il a fallu que je fasse deux fausses couches. Puis à la deuxième fausse couche, j'ai voulu donner un sens à ce deuil-là, ce deuil périnatal-là, que ça marche en combien de semaines avec le fœtus. Fait que là, ça te donne le droit d'avoir un peu de peine, un petit peu plus de peine ou moins de peine selon le nombre de semaines. Puis
Ouais,
en voulant
l'absurdité.
exactement, puis je me suis dit, ben voyons donc, moi je suis une doula, comment ça que je vis ça, t'sais? Et là, j'ai compris que où je travaillais au Cégep, en intervention en loisirs, au socioculturel, sportif et tout ça, j'ai compris que je ne cultivais pas les étoiles dans mes yeux, puis que ma job à moi, c'était de devenir une femme éventuellement sage avec des beaux cheveux blancs, puis d'incarner que j'ai dans le cœur. Et là, je me suis dit que cette fausse couche-là, elle allait me donner le pouvoir, mon super pouvoir de prendre ma place et de faire ma formation. Parce que, dans le fond, le deuil périnatal, ça va me permettre d'être encore meilleure auprès des femmes qui vivent ça. Fait que ce sens-là, cette blessure-là, je l'ai transformée. Ça l'a fait naître Via Luna, mon entreprise qui a 4 ans, mais qui est dans sa 4e année aujourd'hui. Fait que je me suis lancée, mais ça a pris 20 ans. J'ai douté, j'ai hésité, j'ai eu peur. Je pensais que c'était pas viable, pas ci, pas ça, pendant 20 ans. Fait que je souhaite à personne d'attendre aussi longtemps.
Ben, écoute, là, j'allais te demander, y a-tu des erreurs ou des que tu aurais aimé éviter ou faire autrement, peut-être, tu sais? Là, clairement, ne pas attendre 20 ans avant de.
Ouais. Oser avant, parce que c'était là. Je veux dire, j'ai pas couru après ça, là. Ça s'est présenté. J'aurais aimé ça l'honorer. J'aurais aimé ça, le mettre vraiment de l'avant, puis de dire, hey, moi, c'est ça, puis peu importe l'adversité, les difficultés, j'y vais. Là, je l'ai le courage aujourd'hui. Mais je vois des jeunes qui se lancent, puis je les trouve belles. Ben, je parle comme si j'étais à bout d'âge, je suis pas à bout d'âge, mais je veux dire,
À bout
tout ce
d'âge.
doute-là, tu sais, tout ce doute-là que j'ai eu pendant aussi longtemps, j'aurais aimé mieux cultiver le 1, 2, 3, go, Emily, vas-y, tu sais, fonce. C'est ça que je referais différemment. Puis c'est ce que j'aurais envie de dire aux gens, que si tu as ça dans le cœur, ça te fait une petite flamme, ça fait des étoiles dans tes yeux, vas-y parce que c'est là ta place. Attends pas, résiste pas, parce que c'est de l'énergie pour rien, tu sais, qu'on déploie finalement, mais qu'on déploie pas finalement, à résister, à pas se déployer. Fait que ça serait quelque chose que je voudrais pas refaire.
La différence pour toi entre résister à cet élan-là, puis mûrir à travers cet élan-là,
C'est
c'est
sûr que
quoi?
j'aurais le goût de te dire, ça m'a permis de mûrir, de résister, mais j'ai résisté. Mais je peux. Mais j'ai. Oui, il y a eu une grande résistance à aller où je sentais que je devais aller. Alors que je pense que j'aurais pu mûrir en marchant dans ce chemin-là quand même. J'aurais pu grandir, apprendre des choses, tomber, me relever, que ça ne soit pas parfait. C'est comme si j'avais attendu d'avoir été la meilleure version de moi-même pour me lancer comme doula, alors que finalement, que je comprends, c'est jamais abouti.
Non, puis ça se fait en cours de route.
Et ça se fait en marchant le chemin, on fait des itérations, on essaie, on tombe, on se trompe, on recommence. Ah, ça, je le ferai différemment. Ça va être comme ça probablement encore pour le reste. Fait que le mûrissement, il se fait quand tu oses. La résistance, c'est de ne pas aller dans la possibilité de ce mûrissement-là. C'est de même que je le décortique.
C'est beau de t'entendre parler comme ça. Dis-moi, qu'est-ce qui te démarque dans ta façon d'accompagner?
Démarque. Ben, je pense que les années d'expérience, le fait que c'est les naissances qui soient venues avant, je pense que ça fait un parcours qui est différent. La pratique qui était là avant la théorie. Le fait que j'ai fait deux fois ma formation pour devenir doula, parce que j'avais pas, parce que comme j'avais fait la première avant d'avoir mes enfants, là, je trouvais que ça faisait peut-être trop longtemps. Tu sais, j'ai refait la formation après ça. Tu sais, c'est ça. Le fait que je me questionne, que ce soit jamais ça pour moi. Parce que le ça d'aujourd'hui, c'est pas le ça de demain. Je pense que ça fait ma couleur, le fait que j'ai envie de redonner le pouvoir au couple, que c'est pas moi qui les amène à quelque part, mais une accompagne. Moi, je n'aide pas. Je suis pas quelqu'un qui aide. Je suis quelqu'un qui accompagne. Puis ça, c'est important pour moi parce qu'on dit souvent, moi, je veux être accompagnante, je veux aider les couples, mais moi, je veux pas aider. Accompagner, pour moi, c'est de prendre le pouls de c'est qui est devant moi, puis comment je leur donne les meilleurs outils pour eux. Quelle histoire je raconte? Quel vécu je vais partager ou comment je vais aller leur faire ressortir leur propre vécu dans une situation pour qu'ils voient comment ils sont capables puis qu'ils les ont, les outils. Fait que ça, c'est quelque chose qui me démarque beaucoup. Puis l'amour. L'amour pour moi, c'est le cœur ouvert, la vulnérabilité. Je pense que ça peut donner des ailes à tout le monde.
Est-ce que tu as eu des défis pour rester fidèle à tes valeurs quand tu t'es lancé ou au fil des années?
Ben la première fois que j'ai voulu faire un accompagnement, quand j'ai fait ma formation, j'ai eu beaucoup de difficultés avec le premier papa que j'ai accompagné parce que j'étais pas infirmière, parce que j'avais pas quelque chose de scientifique. Ça m'a fait douter. Ça aussi, ça a été quelque chose que, oh mon Dieu, c'est vrai, je suis pas scientifique. Oh mon Dieu. Avec les premiers accompagnements que j'ai faits, après, je me suis comme obligée à arriver avec plein de données et tout ça. Et ça m'a empêché d'être dans mon système de valeurs à moi, qui est dans, oui, il y a quelque chose qui est scientifique, oui, il y a la physiologie, il y a les hormones, mais pour moi, il y a quelque chose d'invisible et ça a été très difficile pour moi de l'assumer. Puis maintenant, j'en parle. Quand je fais un appel découverte, je le dis au couple, je dis, tu sais, des fois, on veut payer une doula pour avoir l'accouchement qu'on veut, mais je leur dis, quand tu payes une doula, t'accouches pas nécessairement dans l'eau avec les dauphins. Là. Puis maintenant, je suis complètement fidèle à tout ça. Puis je leur parle de l'invisible. Puis tu sais, je vois les papas qui roulent les yeux des fois, puis c'est too much pour eux autres. Mais je leur dis, ce n'est pas que ça. Mais je reste dans mon essence à moi. Puis ça, c'est ça. Mais ça a été un défi. Ça a été un défi du subtil, de l'invisible. Puis ça a été vraiment quelque chose de tough à assumer.
On part de toi, puis on prend une couple de pas de recul. J'aimerais que tu me parles, quels sont les défis des doulas au Québec selon toi en ce moment?
Être ensemble. Parce que là, on est un paquet de monde tout seul dans notre coin, dans nos régions, dans nos situations. Puis je pense qu'on a une job à faire encore au niveau de guérir la sororité. Puis de comprendre d'être unique ensemble, dans une unité. Moi, c'est comme ça que je le comprends, notre défi en ce moment, parce que on peut pas. On a envie de garder l'essence de chacune, qu'est-ce qu'on porte. C'est beau, ça. Mais on peut pas le faire si on n'est pas rassemblés. Puis ça va passer par la guérison de la sororité, puis ça va passer par c'est quoi une doula, puis allons-y, puis marchons-le fièrement, ce chemin-là. En respectant, oui, notre couleur, mais il y a une base, il y a une essence. Puis qu'est-ce que c'est notre définition au Québec d'être une doula? Puis il faut en prendre soin.
C'est beau. Quelles sont les forces et les spécificités des doulas au Québec?
On est libre, quand même, d'une certaine manière, d'être juste doula, d'être doula avec une spécificité, avec une formation de plus. Tu sais, quand je dis juste doula, c'est tellement tout pour moi, c'est tellement beau, c'est tellement assez. Si on l'oublie, accompagner, c'est une essence qui est incroyable. Puis au Québec, on a la chance d'avoir de la place. Puis d'avoir la possibilité de la prendre et de la faire encore, je pense. On a quelque chose de. On a quelque chose à écrire ensemble, les doulas. On a quelque chose à. Pas fini, là. On n'est pas abouti. On n'est pas fini de faire encore.
À l'adolescence.
C'est ça, on est dans notre puberté de doula, là.
Comment pourrait évoluer la pratique selon toi?
Ensemble, ensemble. Il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on se parle, il faut pas qu'on se perde parce que il y a certains, on voit là des rôles, il y a des postes affichés de doula, il faut faire attention, il faut se parler, il faut voir qu'est-ce qu'on veut, où on veut aller, il faut faire attention, tu sais, à nos sages-femmes, là, faut qu'on les prenne en exemple. On veut pas que ça se passe de même, je pense, pour les doulas. C'est que ça, là, c'est notre ligne à ne pas dépasser, là. Puis il faut rester la tête. Faut être consciente. Puis c'est sans se politiser, mais de se parler des enjeux, de ce qui se passe. Puis il y en a des femmes, là, qui sont très conscientes, puis qui sont des porte-voix incroyables, mais écoutons-les. Puis les femmes qui ont marché le chemin aussi avant nous, là, qui sont des doulas, là, des sages, entendons-les. Faut voir d'où on vient pour savoir où on veut aller. Puis là, c'est pas clair où on veut aller parce qu'on ne sait pas trop d'où on vient. On devient doula parce qu'on a eu des bébés, puis on aime ça, puis on veut parler de la périnatalité. Mais pour protéger vraiment cette vocation-là, ben il faut en prendre soin. Pas juste individuellement, mais dans le collectif.
Comment pourrait s'organiser le travail des doulas et des différents intervenants du milieu de la périnatalité, mais pour le mieux des familles?
Se parler, faut s'asseoir ensemble. Il faut qu'on comprenne parce qu'on est une menace parce que les gens ne savent pas qu'est-ce qu'on fait. Mais si, là, moi, les médecins qui comprennent que je m'occupe d'être un complément, je m'occupe du couple, quand ils arrivent, puis qu'ils ont confiance en eux, puis en leur corps, puis en leur bébé à naître, bien, ça fait qu'ils ont confiance en l'équipe, puis que ça se passe mieux. Là, il faut qu'on décortique ça comme il faut, là, parce qu'on n'est pas contre personne. Puis en étant pour, en étant ensemble, c'est là que les familles vont être. C'est eux, là. Le follow spot, c'est sur eux, c'est pas sur les doulas, c'est pas sur les médecins, c'est pas sur les obstétriciens, c'est pas sur. Fait que je pense qu'il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se rassemble, puis qu'on arrête d'être une menace, puis qu'on ait peur. On n'est pas médecin, on ne veut pas être médecin. Soyons clairs avec ça, là, on la veut pas le job. Mais ils ont tout intérêt à nous avoir dans leur chambre de naissance, par exemple, pour que le couple soit uni, soit dans leur bulle, soit dans la conscience, soit dans l'ouverture de ce qui est proposé ou non. De demander une petite demi-heure de pause, pas contre la médecine, c'est de dire, je vais aller juste vérifier s'il me reste encore des petites forces dans mon sac, là, dans mon énergie. Les médecins, ils ont tout à gagner d'avoir des couples qui ont confiance en eux. On n'est pas des menaces. Puis ça, là, c'est là qu'il faut qu'on aille, je pense, de décortiquer et démystifier ça.
C'est quoi ta principale motivation en accompagnant les familles aujourd'hui?
Il y a deux niveaux à ma réponse. J'ai envie qu'on prenne soin de ces bébés-là à naître, d'une certaine manière. Puis l'autre réponse que j'ai envie de dire, que les couples se transforment en papa, en maman, en maman-maman, mais que ça se passe à partir du cœur, parce qu'il y a une révolution, je trouve, à avoir un petit bébé. Après avoir eu mon premier bébé, je me sentais comme le Che qui faisait la révolution de l'Amérique latine. Tu sais, je me sentais vraiment dans des nouveaux paradigmes que je. On dirait qu'on ne veut pas toujours entendre le postnatal, c'est quoi. On pense qu'on ne fera pas comme les autres. Mais je pense que on a à préparer les couples, les amoureux, les femmes, les mères. Dans une grande douceur. Je pense que ça, c'est important comme doula qu'on soit là, qu'on reste dans le postnatal, qu'on reste en pré, en père puis en postnatal.
Tu avais une baguette magique. Tu ferais quoi avec?
Ben pour la profession, je ferais ce que j'ai dit tantôt. J'organiserais une grande table avec tout le monde pour qu'on puisse se tripeter. Puis personnellement, j'aimerais beaucoup voyager pour voir les naissances et comment ailleurs, pour me ramener de l'humilité, de l'expérience. Il y a vraiment, c'est ça, ces deux niveaux-là. Il y a au niveau du collectif des doulas, je ferais vraiment une grande table où on peut être ensemble pour vrai, pour les familles, pour les bébés à naître. Parce qu'on oublie, hein, on pense vraiment que c'est les couples qui deviennent parents, mais les petits bébés à naître, il faut qu'on en prenne soin aussi. Mais c'est ça, personnellement, j'aimerais voyager un peu. Ouais, c'est ça. J'aimerais retourner au Mexique, voir à ce lieu-là, c'est rendu comment aujourd'hui. J'aimerais pouvoir vraiment ouvrir les horizons encore plus.
Ouais, c'est des beaux rêves. Je te souhaite que ça se réalise. Tout, 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 tout.
Yay! Tout, hein? Merci.
Merci, Lily, de tous ces partages, de toute cette lumière qui émane de tes partages. C'est précieux et c'est très inspirant. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. À bientôt.